Dossier, page 7 à 10. Conso. Comment réduire son impact sur l'environnement? Avec la crise sanitaire liée à la COVID-19, le lien étroit entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes est apparu au grand jour. Les citoyens sont aujourd'hui nombreux à vouloir agir pour préserver la planète, même si cela signifie consommer autrement. Mais par où commencer? Acheter local, être plus responsable, manger bio, voyager moins. Les conseils sont nombreux et parfois contradictoires. L'apparition du SARS-CoV-2 et le confinement des populations qui s'est ensuivi ont accéléré la prise de conscience qui était déjà à l'œuvre dans la société. Loin de faire oublier les problèmes environnementaux et le dérèglement climatique, cette crise a en effet été l'occasion d'une remise en question de nos modes de vie et, plus particulièrement, de nos modes de production et de consommation. La crise sanitaire a mis un coup de projecteur sur les failles du système, confirme Nicolas Bricasse, socio-économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD, et titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Ce système a permis l'augmentation de la population mondiale, l'urbanisation et la diminution de la faim dans le monde, mais il a aussi entraîné des effets pervers, l'augmentation de la consommation d'énergie et de fertilisants fossiles, l'effondrement de la biodiversité, la pollution généralisée des milieux, etc. L'apparition de nouvelles pathologies nutritionnelles, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers, la consommation de produits ultra-transformés, de résidus de pesticides et de perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, la majorité de la population française veut des produits plus naturels et de préférence fabriqués localement. C'est ce qui ressort d'une étude menée fin mai 2020 par l'Institut de sondage Ipsos. Elle est de plus très inquiète des conséquences économiques de la crise sanitaire, ce qui ne la pousse pas à consommer, mais plutôt à rechercher les prix les plus justes et à se recentrer sur l'essentiel. Cela se traduit, entre autres, par une baisse notable des achats de produits cosmétiques ou vestimentaires, et étonnamment, cette épidémie favorise un changement des habitudes de consommation, note l'Institut Ipsos. 2500 litres, c'est la quantité d'eau nécessaire pour fabriquer un t-shirt en coton. Une garde-robe éco-compatible. Cultures intensives, traitements chimiques, transport par avion, renouvellement des collections à un rythme effréné. L'industrie de la mode est l'une des plus polluantes au monde. Les vêtements sont de plus très peu recyclés. Parmi les 4 millions de tonnes de textiles dont les Européens se débarrassent chaque année, 80% finissent à la poubelle et 10 à 12% seulement sont revendus en seconde main localement. Aussi, résistez à l'achat compulsif. Prenez le temps de choisir des matières comme le coton bio, le lin et le chanvre, voire la viscose ou le lyocell pour les synthétiques. Ou bien encore des textiles fabriqués à partir de plastiques recyclés, tels que la polaire. Le boom du numérique. Si les Français ont considérablement réduit leurs déplacements et fait davantage attention à ce qu'ils mettaient dans leur assiette, ils ne se sont en revanche pas limités quant à leur utilisation d'Internet. La crise a favorisé l'explosion de l'utilisation du numérique, plus 50%, observe l'Institut de sondage. Les achats sur Internet ont bondi, boostés notamment par la crainte d'avoir à se déplacer en magasin. Beaucoup se sont également transformés en fervents adeptes des visioconférences, aussi bien pour prendre des nouvelles de la famille ou des amis que pour participer à des réunions à distance avec les collègues de travail. Même pour faire du sport, le digital est devenu incontournable. Or, le numérique est un gros consommateur d'énergie, prévient Nicolas Bricas, qui pointe un autre piège. Consommer des produits locaux n'est pas non plus toujours la solution la plus vertueuse, car la production locale peut parfois être très énergivore, par exemple si cela demande de cultiver sous serre chauffée. Privilégier la qualité. Il y a tout de même un consensus sur certaines choses, poursuit-il. Tout d'abord, la nécessité de réduire la consommation de viande de mauvaise qualité. La production de viande industrielle, qui est d'ailleurs le plus souvent importée, a un impact relativement élevé sur l'environnement. Si les Français achètent moins de viande, moins 12% en 10 ans, ils en consomment paradoxalement plus qu'avant. Ils en mangent en effet davantage en dehors de chez eux lorsqu'ils sortent au restaurant ou au fast-food, qu'ils achètent un sandwich, etc. Un grand nombre de produits transformés contiennent aussi des protéines animales. Généralement, on mange beaucoup trop de produits carnés, certaines personnes en consomment 14 fois par semaine, c'est-à-dire à chaque repas, alors que nous sommes déjà tous en excédent de protéines, confirme le sociologue qui conseille d'être plus sélectif en choisissant une viande de qualité, favorisant le commerce de proximité. Il recommande également d'en vérifier le lieu de production avant de préciser que il faut produire de grandes quantités de céréales pour nourrir les animaux. La moitié de la surface agricole mondiale est d'ailleurs consacrée à leur alimentation. Fleurs coupées, de saison, c'est mieux. Offrir un bouquet de fleurs est l'assurance de toujours faire plaisir. Mais avant de faire votre choix, interrogez-vous. D'où peuvent bien venir ces merveilleuses roses rouges alors que nous sommes en plein hiver ? Celles-ci, qui représentent près de la moitié des achats de fleurs des Français, sont en effet acheminées par avion de pays lointains, comme le Kenya, l'Éthiopie ou l'Équateur, où elles sont produites dans des conditions sociales et sanitaires déplorables. Aussi, privilégiez des variétés de saison, et si possible produites localement. Renoncule, jonquille, mimosa ou anémone, par exemple, poussent en hiver ou dès le début du printemps. Numérique, une pollution invisible. Visionner une vidéo sur YouTube, un film en streaming, faire des recherches sur le net, envoyer et recevoir des emails, stocker ses photos sur le cloud, ou encore utiliser un objet connecté. Toute cette activité digitale génère une pollution invisible, mais bien réelle. Le Centre national de la recherche scientifique, CNRS, évaluait en 2018 la consommation d'énergie liée à l'activité numérique à 10% de la facture d'électricité mondiale, un chiffre qui n'est pas près de baisser. Pour réduire cette pollution numérique, faites durer vos équipements. Éliminez fichiers, emails et applications inutiles, limitez vos recherches ou utilisez un moteur de recherche éthique comme Lilo ou Ecosia. 9% c'est le taux annuel de croissance de la consommation d'énergie liée à l'activité numérique dans le monde. Le consommateur peut-il refaire le monde? Depuis quelques années, alerté par les nombreuses campagnes menées par diverses organisations non gouvernementales, ONG, environnementales, un nouveau type de consommateur a vu le jour. Ce consommateur éclairé a réduit l'achat des objets en plastique, se méfie de la fast fashion, un segment de l'industrie vestimentaire qui se caractérise par le renouvellement très rapide des collections pour susciter plus souvent l'envie d'acheter. ou encore privilégie l'usage du vélo ou autres trottinettes et voitures électriques. On peut commencer par changer ses comportements, mais on ne peut pour autant faire porter le moteur du changement au consommateur, insiste Nicolas Bricasse, qui ajoute « On a arrêté de se déplacer, ralenti nos activités, mais il n'y a pas eu une très grande baisse de l'émission de gaz à effet de serre. Le comportement des ménages et des individus ne pèse pas tant que ça sur l'environnement. Même si les citoyens font des efforts individuels, face à la menace climatique, cela ne suffira donc pas à changer le modèle, car ce sont les modes de production agricole et industrielle qui sont le plus en cause. C'est la responsabilité des politiques de faciliter les comportements vertueux aux citoyens, souligne le sociologue. Ils peuvent, par exemple, promouvoir la diversification des productions agricoles à l'échelle locale en évitant les monocultures, développer l'installation de pistes cyclables sécurisées et faciliter l'usage des transports en commun. Le changement ne pourra venir que par le collectif, mais la crise qui s'annonce risque fort de placer la lutte contre le dérèglement climatique au second plan, derrière la préservation des emplois. Déjà, avant l'apparition du virus, les revendications sur le pouvoir d'achat étaient la priorité des Français dans les enquêtes d'opinion. La crise des Gilets jaunes a montré un attachement à un certain statut social dont la consommation est l'un des principaux signes. En attendant, la pandémie offre l'occasion de prendre du recul et d'engager une réflexion sur les valeurs et sur le fonctionnement des systèmes économiques et sociaux. Isabelle Coston. Flora Bernard est cofondatrice de l'agence de philosophie TAE et l'auteur de « Manager avec les philosophes » aux éditions Duno 2016. Le test des valeurs, c'est la crise. En dépit des drames personnels et des difficultés économiques majeures que la crise sanitaire a engendrées, cette période peut-elle être une occasion de tout changer? En tout cas, la philosophie peut aider à réfléchir et à prendre de la hauteur. Le mutualiste. La mise à l'arrêt de l'activité économique au printemps a-t-elle entraîné une prise de conscience de ce qui était superflu dans nos vies? Flora Bernard. Même si le ralentissement de l'activité économique ne nous a pas arrêtés de consommer, cela a certainement été l'occasion de se questionner sur ce qui était essentiel et secondaire et de distinguer dans nos modes de consommation ce qui était de l'ordre du besoin et ce qui était de l'ordre du désir. Il me semble que nous nous sommes principalement focalisés sur nos besoins, ce qu'exige notre corps et notre psychisme pour vivre, et moins sur nos désirs, l'énergie qui nous porte à vouloir des objets matériels ou immatériels qui nous donnent l'impression d'exister davantage. Peut-être nous sommes-nous rendus compte que nous pouvions nous passer de ce que nous considérions comme des besoins, mais qui en réalité étaient des désirs. Le mutualiste, est-ce la société de consommation qui dicte nos désirs? Flora Bernard. Tout dépend comment l'on définit désir. Le désir et les désirs. Le désir est l'essence de l'homme, disait Spinoza, c'est l'énergie qui nous pousse à exister. Dans ce sens, le désir fait partie de notre condition d'être humain. Quand on parle des désirs, en revanche, désir qui porte sur quelque chose ou quelqu'un, on peut en effet tenter de distinguer les désirs authentiques, dont la source est en nous, des désirs qui nous sont dictés par d'autres. Sénèque écrivait déjà à son ami Lucilius, 63-64 après Jésus-Christ, « Que d'objets nous achetons parce que d'autres les ont achetés? parce qu'on les voit chez tout le monde, ou presque, l'une des causes de nos malheurs est que nous vivons en prenant exemple sur autrui. Nous ne nous réglons pas sur la raison, mais nous laissons détourner par les usages. Le mutualiste, la philosophie peut-elle accompagner l'individu dans ses choix? Si philosopher, c'est garder vivant un questionnement permanent sur le sens de notre vie, alors oui, qu'est-ce qu'une vie bonne? Mon travail est-il utile? Quelles sont nos valeurs et comment les vivons-nous par temps de crise? Voilà quelques questions que la philosophie nous souffle, nous demandant de réinterroger ce qui paraissait évident, tant dans nos manières de vivre que de consommer. Propos recueillis par I.C.